cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 27 mai 1987.
Vous avez parlé des catotos. Pouvez-vous préciser ce que c'est? D'où cela vient? C'est comme... C'est une bête particulière, les catotos. Spéciale. Elle apparaît dans les secondes analytiques d'Aristote. Quand Aristote essaie de comprendre les liens de nécessité au point de vue de la connaissance scientifique, la science n'existe que lorsqu'il y a un lien de nécessité. Et donc, toute la structure critique, c'est plus de la logique, c'est de la structure critique, ça fait partie de la critique. Toute la structure fondamentale d'une pensée scientifique repose là où il y a des liens de nécessité. Et les catotos, qui se traduit en latin par le percer, qui se traduit en français par un lien de nécessité, essaie de traduire donc ces liens de nécessité. Il y a un lien de nécessité immanent dans l'acuité. Il y a un lien de nécessité propre à la science, la propriété. Il y a un lien de nécessité très particulier dans le point de vue de la personne, l'identité. Et un lien de nécessité par rapport à l'opération, le quatrième catoto. Vous voyez bien, toute la structure de la science, de la philosophie, qu'au fond, la science, pour Aristote, c'est la philosophie. Toute la structure de la philosophie repose sur la recherche des propriétés, sur la philosophie spéculative. Et toute la philosophie pratique repose sur la finalité. C'est au fond très simple comme structure et c'est très intéressant à bien voir. Le point de vue spéculatif, premier catoto. Donc, le lien de perséité, le lien de perséité, le lien de nécessité au niveau quidité et au niveau propriété. Vous cherchez ce qu'est la quidité, ce qu'est, ce qui est.
Et donc la personne est dans l'ordre pratique. Ce que le
premier cas toto et dans l'autre spéculatif. Et dans l'ordre pratique, tout, la propriété, c'est la finalité. C'est très beau comme structure, puis Aristote donne ça comme si tout le monde pouvait comprendre. Et vous voyez que c'est au fond la réflexion critique sur les deux grands aspects de ma connaissance, spéculative et pratique. Tout le point de vue spéculatif est commandé par l'intelligibilité de l'être. Et tout le point de vue pratique est commandé par la finalité, le bien. Vous avez de nouveau cette fameuse distinction que donne saint Thomas. Ratio entis. Comprenez que l'acuité, hein, nous l'avions déjà vu, et le point de vue ratio boni. Mais comme c'est étonnant, Aristote ne le dit pas, ça, mais c'est très étonnant de voir qu'on retrouve les deux grandes structures de la connaissance spéculative et de la connaissance pratique dans l'énumération des cas toto. Et on voit, sans qu'Aristote dise que c'est la personne, mais en réalité c'est la personne, que tout l'ordre pratique repose sur la personne, alors que l'ordre spéculatif repose sur l'être. Voyez, métaphysique éthique, si on essaie de comprendre, on voit bien philosophie première. C'est ce passage de ce qu'est l'acuité, c'est la nature, hein, ce qu'est la réalité. Et vous voyez bien que c'est toujours nature-personne, non pas l'opposition et le lien entre les deux. Tout l'aspect spéculatif cherche les principes, tout l'aspect pratique repose sur la personne. Et dans l'ordre spéculatif, la personne, c'est une manière d'exister, c'est pas un principe. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant à voir, parce que c'est assez étonnant d'énumérer les quatre catoto comme ça. Et puis quand vous réfléchissez, vous voyez que c'est toute la structure de votre réflexion profonde. C'est très étonnant d'avoir découvert un statut scientifique spéculatif et un statut scientifique pratique. C'est assez génial, ça. Surtout quand on voit uniquement ça. Quatre catoto, vous avez tout. Mais c'est pour ça que les quatre catoto, c'est comme le coffre-fort de la critique d'Aristote. Tout est là. C'est l'ultime point par où je découvre la structure scientifique d'une pensée spéculative et d'une pensée pratique. Alors on voit la place de ce que représente quidité, ratio, propriété, personne, finalité. Oui. Alors évidemment, catoto, c'est à usage interne. Parce que je crois que aujourd'hui, pas beaucoup de personnes comprennent ce que c'est que le catoto. Je ne sais pas si, au fond, même des aristotéliciens ont compris l'importance de ça. Et pourtant, c'est les liens de nécessité, vous comprenez. Si je critique ce que c'est que la science, et vous cherchez les liens de nécessité, où se trouve le lien de nécessité? Où se trouve la science, quoi, comme fondement? Là, il n'y a pas de lien de nécessité, il n'y a pas de science. Et du reste, c'est vrai, ça reste vrai, même pour la pensée contemporaine. On cherche l'expérience de ce qu'est la personne humaine, le « je suis » implique-t-il, d'où le point de vue de l'activité artistique et le point de vue du travail. Puis-je définir la personne humaine par le travail? Puis-je définir la personne humaine par le point de vue de l'art? Vous voyez, il y a là un problème très actuel et très important. Quel lien de nécessité existe-t-il entre le travail et le je suis ? Thank you. c'est le fruit d'une civilisation. Alors, qu'est-ce qu'est le lien entre le travail et l'homme? Alors, est-ce que je ne suis pas ici, en face de quelque chose de tout à fait nouveau? C'est plus un lien de percée. arriver à lui apprendre un geste, deux gestes, trois gestes, et arriver peut-être à les assembler. Vous arriverez peut-être à apprendre un tout petit peu à dire quelques mots. C'est limité. Tout dépend évidemment du degré d'handicap. Et l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est faire sortir un être de sa potentialité vers l'acte. Donc l'orienter vers sa finalité. Alors voyez le problème qui se pose ici. Je ne définis pas la personne humaine par le travail. Là, je ne suis pas marxiste. Parce que dans le marxisme, la personne humaine est définie par le travail. Une personne humaine qui n'est bonne à rien au point de vue du travail n'est pas une personne humaine. Vous voyez, c'est toute la métaphysique qui tombe et c'est toute l'éthique qui tombe. Et c'est la philosophie du fatuité qui devient première et qui remplace la métaphysique. Je ne peux pas définir une personne humaine par le travail et par l'efficacité. Et cependant, je reconnais que la personne humaine implique nécessairement un devenir, un développement, une croissance. Dans la mesure où il y a eu une croissance biologique, même si elle était mal formée, il y a eu quand même un certain développement. Dans la mesure où il y a eu un certain développement de l'intelligence, un certain éveil, il y a un certain développement. Mais ça reste très limité. Alors, ça me permet de comprendre que le travail est essentiel à la personne humaine en vue de son développement. Mais c'est donc ce qui vient conditionner le développement de la personne humaine. Ce qui vient conditionner son exercice, son développement, sa capacité d'atteindre sa fin. Et ceci du côté du corps et du côté de l'esprit. Puisque s'il n'y a qu'esprit, il n'y a pas de travail. S'il n'y a que corps, il n'y a pas de travail. Le travail, c'est la jonction du devenir intellectuel dans le devenir physique. Et c'est la jonction des deux. Philosophiquement, métaphysiquement, le travail, c'est cela. Par l'intelligence, je domine mon devenir, je domine mon travail. Parce que le premier travail, c'est sur moi. Faites des efforts, hein, on dira, mais c'est votre travail, réveillez-vous un peu. Faites des efforts et dominez un tout petit peu vos exercices. Pour vous développer, quant au point de vue biologique, quant au point de vue proprement spirituel. Donc le premier travail, c'est sur vous. Et ce premier travail, alors voyez, la 16 apparaît tout de suite. C'est un travail. Et c'est lié à ce fait que la personne humaine implique un corps et une âme. Et le devenir de l'âme, de l'intelligence, provient de ce lien avec le corps. Et le devenir du corps provient de ce lien avec l'esprit. Là, vous voyez le lien si fort entre l'âme et le corps et comment les deux vont faire donner naissance au travail. Et montre le caractère si impératif du travail. Tu dois travailler. Le côté si impératif, le premier commandement de Dieu, c'est à l'égard du travail. Dominer l'univers. Le Saint-Père l'a souligné dans son encyclique. Donc, c'est un commandement très impératif. C'est peut-être là où je saisis ce qu'est le commandement, au sens le plus fort. Si ceci est vrai, voyez comme c'est intéressant pour découvrir ce que c'est quand. Kant, c'est une philosophie qui fait naître. reviens toujours sur la question. Donc vous voyez que le travail est essentiel au développement humain, mais ne fait pas partie de la structure de la personne et ne fait pas partie de la finalité. C'est donc bien l'ordre du conditionnement. Alors, autre question, toujours dans l'ordre de la personne, est-ce que tout conditionnement ne provient-il pas du devenir et du travail? Autrement dit, le conditionnement, c'est la condition de l'homme qui doit travailler. Et mon conditionnement est enraciné dans l'exigence de ce développement humain, de cette croissance dans l'ordre de l'être, et de ce fait que je suis dans l'obligation de travailler. Je crois que ça, c'est le conditionnement au moins le plus manifeste, le plus visible. Quand vous apprenez aux gosses à marcher, mais vous travaillez. Et vous avez des méthodes pour bien marcher. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut faire attention que les jambes se situent de telle manière. Vous voyez, tout de suite une méthode. Dès qu'il y a du travail, il y a une méthode. Dès qu'il y a du travail, il y a des outils. Je crois qu'on est en face du conditionnement premier de la personne humaine. Alors, je pousse plus loin, parce que là, c'est le travail. Allez, commencez par là. Je pousse plus loin. L'art, ce n'est pas seulement le travail. L'art implique plus que le travail, puisque l'art n'existe que s'il y a une certaine inspiration en vue d'une œuvre. Le travail est commun aux manœuvres et au génie. Là, il se donne les mains. C'est là où on comprend qu'il n'y a pas de division du travail. Génériquement, le travail est le même du génie et du manœuvre. Le pur manœuvre, le porteur de gros bagages. Vois bien ce que c'est, il exécute. Il exécute, c'est tout. Ça, c'est le travail. Et puis le travail génial du mathématicien, de l'architecte, du sculpteur, du peintre. Le travail qui est tout à fait différent. Ce n'est plus l'exécution en premier lieu. Ça exige l'exécution, mais c'est plus l'exécution en premier lieu. Il y a ce qu'on appelle le point de vue de l'intelligence, de l'inspiration. Alors voyez, là on touche quelque chose de très particulier. Ce n'est plus simplement le conditionnement. Réaliser une œuvre. Et l'inspiration est en vue de réaliser une œuvre. Et l'inspiration est toujours plus que l'œuvre. C'est dans quelle mesure les mathématiques sont nécessaires à l'homme? Parce que les mathématiques sont quelque chose de très très fondamental, même dans le travail artistique. Pour l'architecture, on le sait bien. Pour la peinture, moins. Pour la sculpture aussi, moins. Mais quand même, l'harmonie. Et l'harmonie, c'est un sens mathématique, géométrique. Alors, c'est très curieux. Est-ce que les mathématiques sont quelque chose d'essentiel à la personne humaine? C'est tellement inscrit. Et avec les mathématiques, la logique, vous voyez. Parce que c'est le conditionnement, tout ça. Je peux contempler sans logique. Et même, morte, on ne contemple pas. Il faut que la critique meure pour contempler. Et tant que la critique ne meurt pas, on ne contemple pas. Alors, ça c'est la finalité, la contemplation. Alors, c'est le conditionnement, la critique, la logique, les mathématiques. Donc la finalité ne caractérise amène du beau est propre à l'homme. Je comprends que c'est le domaine qui me séduit le plus. C'est propre à l'homme, c'est donc une propriété du pos, du commun de l'homme. Et c'est donc essentiel au pos, mais ce n'est pas la finalité. C'est donc un statut tout à fait particulier. Qu'est ce domaine du propre, qu'est ce domaine du beau, qu'est ce domaine de l'art, qu'est ce domaine des mathématiques. Il y a là quelque chose de très curieux. Mais qui, je crois, si on analyse, on aboutit fatalement à cela. Ce n'est pas la finalité. La finalité est le propre de l'esprit, pur. Le conditionnement est le propre du devenir. Et l'art se situe entre les deux. C'est pour ça que l'art a toujours un rôle de médiation. Tout artiste est médiateur. Pontifex, il construit des ponts. Tout artiste, il est médiateur. Il y a un lien avec le point de vue prophétique et le point de vue sacerdotal. C'est très curieux, ça. Parce que tout artiste est médiateur. Et tout artiste est médiateur parce que, justement, il voit, il naît à partir du lien de l'esprit et de la matière. Il naît à partir de ce lien du pose de la personne humaine. Et il développe ce pose dans le sens de l'intelligence, pour que l'esprit domine toujours le sensible. Voilà la vocation propre de l'artiste. Faire que le sensible soit imprégné d'intelligibilité. Et en faisant ça, je ne dis pas qu'il sauve l'homme. Je ne dis pas qu'il fait découvrir à l'homme sa finalité. Mais c'est les médiateurs. Il permet au corps d'être habité par l'esprit, d'en devenir un temple de l'esprit. Et par le fait même, il va alléger le conditionnement humain du travail et le mettre en disposition ultime vers le point de vue du bien et de l'amour. Alors on rejoint cette affirmation de saint Thomas, la beauté et la disposition aux fiançailles. C'est très beau, ça. C'est-à-dire à l'amour. La beauté et la disposition vers l'amour. Et par rapport à la personne humaine, voyez, où se situe l'art, où se situent les mathématiques, il y a des liens là. C'est permettre ce conditionnement humain qui d'habitude est si lourd d'être allégé. Permettre ce conditionnement humain d'être allégé. Et faire que ce conditionnement humain puisse être entièrement assumé en vue de la finalité. C'est, je crois, le propre de l'art, ça. Mais vous comprenez que le beau en soi est un certain absolu. Donc il ne faut pas ramener l'art toujours uniquement à la disposition. Il peut y avoir un beau recherché pour lui-même. C'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Donc, toujours en définitive, ça reviendra à faire que le sensible soit ordonné au spirituel. L'artiste ne travaille pas uniquement dans le spirituel. Il travaille toujours dans le lien du sensible et du spirituel. C'est son lieu propre. combinaison possible du sensible et du spirituel. Et c'est là où, de fait, il essaie de comprendre un développement de la personne humaine. L'art permet tout un développement de la personne humaine. Et on comprend à ce moment-là que la critique est nécessaire. Les obstacles.